Les deux orphelines, quatrième partie, chapitre 10. Le chevalier de Vaudrey avait éprouvé une sensation de vertige. Aidé par le vieux serviteur de sa famille, il avait espéré une évasion qui lui permettrait de voler au secours de son Henriette bien-aimée. Après le sombre désespoir de ses journées interminables et de ses mortelles nuits de prisonnier, il avait vu luire un rayon d'espérance. Mais cette lueur s'évanouissait subitement. Encore une seconde et cette porte allait s'ouvrir, la tentative serait découverte. Et les rigueurs recommençaient pour lui avec cette aggravation qu'on le surveillerait jour et nuit. Et que pourrait-il ensuite? Est-ce qu'on s'évadait de la Bastille? Cette idée provoqua chez Roger cet affolement qui, s'emparant des prisonniers, les pousse à ne pas reculer même devant un crime, s'il doit aider à leur évasion. Si en ce moment un guichetier ayant ouvert la porte se fut présenté, dans un accès de surexcitation cérébrale, le chevalier de Vaudrey n'eût probablement pas hésité à lui sauter à la gorge. Et le placide Picard lui-même eût imité son exemple. Il y eut donc entre ces deux hommes un moment de silence, pendant lequel ils échangèrent des regards, affirmant une même résolution. Par bonheur, après avoir frôlé la porte, l'homme passa. Un soupir de soulagement s'exhala des poitrines contractées de Roger et de Picard. Ils écoutèrent toutefois, redoutant quelque retour offensif, mais le bruit de pas se faisait de plus en plus sourd et de plus en plus faible, jusqu'à ce qu'il se fût complètement perdu dans le lointain. Il avait semblé au valet que l'individu qui s'était ainsi éloigné, avait monté les escaliers conduisant à l'étage supérieur au lieu de descendre. C'était un bon indice. Le danger eût été de se trouver nez à nez avec lui à l'étage inférieur. Décidément, se dit Picard, la Providence est avec nous. Alors, résolument, il chercha dans le trousseau la clé qui ouvrait la porte de la cellule. Sans hésiter, il fit jouer le pen. La porte massive s'ouvrit sans bruit. Roger avait fait un mouvement pour s'élancer, Picard le retint par le bras. Avançant la tête, comme font les chats craintifs, il lança de rapides coups d'œil aux deux extrémités du corridor. Personne nulle part. Il écouta. Pas le moindre bruit, provenant ni de l'étage supérieur, ni du corridor d'en bas. Picard, d'une main tremblante, toucha le bras du chevalier. Ce fut le signal. Les deux fugitifs se risquèrent dans le corridor. Ils marchèrent d'abord lentement, puis avec plus d'assurance, n'ayant que quelques pas à faire pour atteindre l'escalier tournant. Là, on pouvait être surpris. Il suffisait pour cela qu'un gardien eût la fantaisie, ainsi que cela arrivait quelquefois, de s'arrêter sur les marches pour regarder par l'une des meurtrières percées dans le mur ce qui se passait au dehors. C'était à peu près les distractions permises à ces prisonniers volontaires qui, pour un mince salaire, consentait à s'enfermer ainsi dans une forteresse. Picard eut peur au moment de mettre le pied sur la première marche. Mais déjà, le chevalier l'avait précédé et descendait. Force fut au valet de suivre. Au surplus, il commençait à s'habituer à son déguisement. Il s'étudiait à imiter les allures et la démarche du geôlier dont il avait pris le costume. On atteignit l'étage inférieur sans avoir rencontré personne. Mais là, des bruits de voix se firent entendre provenant du corps de garde. Le chevalier s'était arrêté, hésitant. Picard s'en aperçut. « Allons, du courage, mon ami » dit-il assez haut en contrefaisant l'organe de Rumignac et en imitant le mieux possible son accent gascon. « Ça ne sera rien. Avec un peu de sommeil par là-dessus, vous serez guéri. » Et passant familièrement son bras sous celui du chevalier, il fit mine de l'aider à marcher. Mais il fallait maintenant passer devant la sentinelle qui se trouvait à l'entrée du corps de garde. C'était le plus grand danger qu'ils eussent encore couru depuis le moment où ils avaient entrepris l'exécution du plan d'évasion. Il pouvait se faire, en effet, que la sentinelle s'approchât dans l'intention d'échanger quelques mots avec le geôlier. D'autre part, Rumignac n'avait-il pas coutume de parler au chef de poste avant de faire sortir les visiteurs? Mais il n'y avait pas à hésiter. Le faux geôlier entraîna son compagnon. Les voix entendues étaient celles des soldats qui profitaient de l'absence des officiers pour jouer aux dés. Fort heureusement, la sentinelle avait le dos tourné. Ce pauvre diable, ne pouvant participer à la partie, prenait du plaisir à voir jouer ses camarades. Picard entraîna sans s'arrêter le chevalier qui, les mains sur son visage, simulait une souffrance intolérable. Le valet et son compagnon étaient arrivés dans une sorte de vestibule où se tenaient d'ordinaire des gardiens de service. Mais le dimanche, comme on le sait, la consigne était moins sévèrement observée et la plupart de ces hommes écoutaient la messe à la porte de l'église. Jusque-là, tout avait bien marché. Il ne s'agissait plus pour le chevalier de Vaudrey que de traverser une petite cour couverte qui reliait l'imposante masse principale de la forteresse au bâtiment servant d'entrée et qui s'ouvrait sur la cour principale séparée du fossé par le pont-levis. Tout à coup, Picard fut assailli par une insurmontable émotion. Une de ces paniques qui s'emparent des plus braves au moment de l'action décisive faillit paralyser ses jambes et l'obliger à rester sur place. Il s'était figuré que la sentinelle qui se promenait sur la plateforme du mur d'enceinte venait de s'arrêter juste en face de lui et qu'elle semblait le dévisager. Terreur folle assurément, car le brave militaire, fort ennuyé sans doute de cette faction, se reposait en ce moment de son interminable et peu divertissante promenade à 100 pieds au-dessus du sol. C'était maintenant le chevalier qui poussait de l'avant. Voyant l'hésitation de celui qui devait lui servir de guide, il lui avait adressé un regard où se lisait une si énergique volonté que Picard fit un effort sur lui-même pour surmonter la peur et la défaillance qui venaient de l'assaillir. « À la volonté du bon Dieu » murmura-t-il à l'oreille de Roger. Il franchit la distance qui le séparait du greffe d'un pas plus assuré. Il n'y avait plus qu'à traverser la cour d'honneur et à s'orienter rapidement pour gagner la poterne. Les deux fugitifs aspirèrent à longs traits l'air qui s'engouffrait par la porte ouvrant sur la cour. Une sentinelle faisait faction devant cette porte. Disons, à la louange de Picard, que son courage lui était revenu et que désormais il pouvait commander à ses nerfs. C'est donc avec assurance qu'il prit un pas d'avance sur son compagnon afin d'indiquer au chevalier par où il fallait passer. Ruminiac n'eût certainement pas fait autre chose. D'un coup d'œil, Picard avait aperçu la poterne. Il bifurqua donc légèrement à gauche, disant à Roger « Il n'y a pas un chat dans la cour !»« Dépêchons !» répondit à voix basse le chevalier. Picard, ainsi que nous l'avons dit, connaissait la clé de la poterne grâce au bavardage du geôlier. Il l'avait tenue dans la main au moment où il avait, en compagnie du prisonnier, quitté la cellule. Il n'eut pas de peine à la retrouver dans le trousseau. Ceci fait, il prit hardiment les devants. Roger n'y tenait plus, sa poitrine haletait. Très ému, Picard cherchait à assurer sa main qui tremblait en présentant la clé à la serrure. À ce moment, il se fit un certain mouvement dans la cour. Les gardiens, qui s'étaient jusque-là tenus à la porte de l'église, retournaient à leur poste. L'un d'eux se détacha, prenant la direction de la poterne. Picard et son maître tressaillirent. Le gardien arrivait incontestablement sur eux. C'en était fait. En moins d'une minute, il pourrait les aborder et s'emparer du prisonnier. Les yeux de Picard cherchèrent ceux de Roger avec une expression de terrible angoisse. Ici, plus de lutte possible, car le gardien pouvait au moindre signal être secouru de toutes parts. « Ouvre !» commanda le chevalier d'un ton qui ne souffrait pas la réplique. « Perdu ! Perdu !» murmura le valet dont le visage était devenu livide. « Qu'importe ce qui arrivera ! Ouvre, te dis-je » Picard obéit. La poterne allait livrer passage aux fugitifs. « Sors et referme derrière toi !» dit le chevalier en s'élançant au dehors. Mais à ce moment, la voix du gardien cria « Ruminiac ! Hé ! Ruminiac !» Que faire ? Ne pas répondre, c'était se perdre. Répondre, c'était risquer d'être découvert. Et déjà le chevalier avait dépassé la poterne. « Fuyez !» lui dit le vieux serviteur. « Fuyez, au nom de Mademoiselle Henriette ! Laissez-moi me sortir d'ici comme je pourrai !» Et il se tourna pour répondre au gardien. Mais à sa grande surprise, celui-ci s'était arrêté à moitié de la cour et lui criait « Ne te dérange pas, Ruminiac, je te conterai ça tout à l'heure !» D'un bond, le faux geôlier était sorti de la cour. Il tira vivement la porte derrière lui et donna 2 tours à la serrure. Et rejoignant le chevalier qui était déjà à quelques pas, « Libre !» lui dit-il, « Nous voici libres !»« Ne perdons pas une minute !» fit le chevalier en doublant le pas. « Non !» s'écria Picard. Rien n'est plus imprudent dans notre situation que de courir. Évitons d'éveiller l'attention des passants. sans compter que peut-être, à l'heure qu'il est, votre évasion a déjà mis sur pied tout le monde à la Bastille, et que le gouverneur aura mis ses gens à nos trousses. » Picard, en parlant ainsi, était en proie à une violente agitation. Maintenant qu'il avait réussi à faire évader le chevalier, il ne savait comment lui avouer quand il était peut-être déjà en route pour le port d'embarquement des déportés. Son inquiétude était d'autant plus grande que Roger ne parlait de rien moins que de courir tout de suite à la salpêtrière. « Y pensez-vous » dit-il, « dans ce costume de domestique ? Et moi ? Moi » continua-t-il, « puis-je vous accompagner dans cette tenue de geôlier ? Croyez-moi, monsieur le chevalier, rentrons d'abord chez vous pour changer de vêtements. Et aussitôt après, nous irons à la salpêtrière. » Roger se rendit. « Prenons par le quai de la Tournelle, » fit-il. « Nous aurons la chance de trouver une voiture à la station. » Les deux hommes continuèrent à marcher en se dirigeant vers le quai. Au bout de 10 minutes, Picard ravisa un véhicule qui s'en allait au pas. Il héla l'automédon et fit monter Roger. Puis il donna l'adresse au cocher en lui glissant un écu dans la main. Le chevalier habitait un petit hôtel dans l'île Saint-Louis. À peine la voiture fut-elle en route que Roger, impatient d'apprendre ce que Picard savait d'Henriette, pressa le valet de questions. Le pauvre homme hésitant à répondre. « Pourquoi gardes-tu le silence ? » demanda le chevalier. « As-tu donc un malheur à m'annoncer ? Parle, je le veux. »« Hélas, monsieur le chevalier, a deviné. »« Henriette ? » ?»« N'est peut-être déjà plus à la salpêtrière. » Et en quelques mots, il raconta ce qui s'était passé dans la prison. L'arrivée de Marès et des agents chargés de se faire livrer les filles condamnées à l'exil. « Et Henriette était du nombre ?» s'écria Roger hors de lui. « Hélas, monsieur le chevalier !» Le visage du pauvre Picard avait pris une expression chagrine qui eût dispensé Roger de poursuivre ses questions. Cependant, le chevalier, fou de douleur, avait saisi la main de son compagnon et l'étreignait avec véhémence. « Pourquoi n'es-tu pas resté auprès d'elle ? » s'écria-t-il. « Ne m'avais-tu pas juré ?»« De la voir, oui, et je l'ai fait !» De la défendre. Était-ce possible, monsieur le chevalier? Songez-y donc, Marest et ses hommes étaient là. Qu'aurais-je pu faire pour délivrer cette chère demoiselle? La moindre manifestation en sa faveur eût dévoilé mes projets. Et tu es parti, en la laissant aux mains de ces misérables, qui l'ont traitée peut-être comme ils ont l'habitude de traiter les filles perdues. Tu l'as laissée se désespérer. Oh non, non, mon maître, je lui avais dit que je venais de votre part. Que vous ne songiez qu'à sa délivrance. Et en partant, je lui ai dit que j'allais faire le nécessaire pour... Et que pouvons-nous maintenant ? Gronda le chevalier d'une voix terrible. Tout, monsieur le chevalier, tout ! L'escorte, en pareil cas, est d'ordinaire peu nombreuse. Il nous sera facile de la mettre en fuite, et plus facile encore de l'acheter. Nous pouvons courir à la poursuite des agents, si déjà ils sont en route. Nous les rattraperons, et d'une façon ou de l'autre, il faudra bien qu'ils nous rendent leurs prisonnières. Puis changeant de ton. « Vous vous taisez, monsieur le chevalier, et tout ce que je vous dis là me semble de la folie, » dit tristement le chevalier. Ces mots firent tomber l'enthousiasme du valet. Il jeta des regards inquiets sur son maître, tandis que celui-ci continuait. « Nous pourrons nous battre contre les agents de la prévôté, et quand bien même nous le ferions... Nous avons accompli des choses plus difficiles que ça, puisque nous sommes parvenus à nous échapper de la Bastille. » riposta Picard avec orgueil. Et puis, mon brave Picard, lorsque nous aurons rejoint la pauvre chère créature, ne faudra-t-il pas quitter la France avec elle ? Nous la quitterons, c'est convenu. Le seul avenir qui s'ouvre devant nous est celui de proscrit. Eh bien, nous l'accepterons tous les deux cet avenir. Nous partirons avec notre fiancé, tous les deux. Et une fois là-bas, nous l'épouserons, tous les... Non, je veux dire, une fois là-bas, vous serez heureux, tous les deux. « Tu comptes donc partir aussi, toi, Picard ?» s'informa le chevalier avec intérêt. « Tu te condamnerais à nous suivre ?»« Pour deux motifs. Le premier, c'est que je ne veux plus vous quitter. J'en ai assez d'être un serviteur à double face. Mon vœu le plus cher est de vous servir ouvertement, sans contrainte, sans mensonge. »« Le second motif, c'est que monseigneur le lieutenant de police ne me pardonnera pas votre évasion. Je suis certain que malgré les 40 ans de bons et loyaux services, que j'ai à mon actif dans sa famille, mon maître, celui que je trompe indignement et qui me paie, me donnera pour asile, pour le reste de mes jours, un cachot à la Bastille. Et c'est là que Picard expira son dévouement à son jeune maître. puis d'une voix émue. « Vous voyez bien, monsieur le chevalier, que vous ne pouvez plus m'empêcher de vous suivre. »« Oui, c'est bien décidé. En quelque lieu que vous alliez, j'irai. » Roger eut un regard de reconnaissance pour le vieux serviteur qui lui donnait le seul conseil qui pût satisfaire son cœur. Il se prépara à la démarche qu'il allait faire, bien résolu à lier désormais son sort à celui d'Henriette. Arrivés à l'hôtel, tous deux se vêtirent avec une agitation fiévreuse. Et aussitôt qu'ils furent en tenue convenable, sans perdre un instant, ils se mirent en route pour la salpêtrière. Le chevalier espérait qu'Henriette ne serait pas encore partie pour le Havre. Pendant les premières minutes, ils observèrent le silence, chacun s'abandonnant aux pensées qui envahissaient son esprit. Au fur et à mesure qu'ils avançaient dans la direction de la prison, les préoccupations de Picard s'accusaient davantage. Il avait le pressentiment d'une grande déception qui frapperait au cœur le chevalier. De son côté, Roger se demandait comment, le cas échéant, il parviendrait à faire mettre la détenue en liberté. Certes, il supposait bien que la supérieure s'élèverait contre l'idée de commettre une infraction au règlement si sévère de la prison et ne consentirait jamais à se rendre complice d'un enlèvement. Alors, cette démarche qu'on parvenait à faire après avoir surmonté 1000 difficultés avorterait pitoyablement. Troublé par cette perspective d'un succès, le chevalier de Vaudrey s'arrêta à quelques pas de la salpêtrière pour faire part à son compagnon de ce qui se passait dans lui à ce moment décisif. « Laissez-moi agir, » répondit Picard, enchanté d'éviter à son maître une émotion qu'il redoutait et dont il ne pouvait prévoir les conséquences. « Je vais d'abord m'enquérir de ce qui est arrivé après mon départ. Nous aviserons ensuite sur ce qu'il conviendra de faire pour délivrer Mademoiselle Henriette. »« Soit, » dit le chevalier, « hâte-toi, je vais t'attendre ici. » Et le valet parti, il alla se placer à l'entrée de la rue, d'où il put voir Picard pénétrer dans la prison. Roger n'eut pas à attendre longtemps le retour de son compagnon. En le voyant revenir, il s'élança au-devant de lui, anxieux et redoutant un malheur. Picard, le front courbé, donnait des signes non équivoques de désappointement et de désolation. Et sans attendre d'être interrogé, « Il ne nous reste plus, monsieur le chevalier, » dit-il, « car poursuivre ceux qui emmènent la pauvre demoiselle. »« Quoi ? Henriette ? » ?»« Et parti. Il faut rattraper l'avance que peut avoir la charrette des détenus. » Le chevalier de Vaudrey demeura un instant frappé de stupeur, puis redevenant maître de lui-même et relevant la tête. « Partons, » dit-il. « Tu vas d'abord t'occuper des chevaux. »« C'est mon affaire. Tu t'informeras des meilleurs relais. Je connais tout ça. Fais en sorte que nous puissions être en selle le plus tôt possible. Dans une heure, je le promets, nous courrons au grand galop sur la route de la Normandie. » Roger était redevenu silencieux. Il s'était remis en marche avec l'intention manifeste de retourner dans le quartier du Marais. Mais au bout de quelques pas, le domestique lui fit observer qu'il ne devait pas s'exposer, en ce moment surtout, à être rencontré. Il fut donc convenu que tandis que Picard s'occuperait des chevaux, le chevalier irait attendre dans un cabaret du boulevard de l'hôpital que son compagnon vint le prendre. Au surplus, ne s'était-il pas suffisamment muni d'argent en prévision du voyage à faire? Picard, de son côté, faisait diligence, tout en ruminant dans sa tête une foule d'idées qui n'étaient pas sans l'inquiéter beaucoup. Il s'agissait de se mettre à la poursuite des agents de la prévôté, c'est-à-dire de se mettre en pleine révolte contre elle. En outre, connaissant le caractère énergique du chevalier, qu'il voyait surexcité au dernier point par la pensée des tortures que devait subir Henriette, le brave serviteur redoutait quelques batailles où il pourrait y avoir du sang versé. Sans compter que l'issue n'en était pas absolument certaine, étant donné le nombre d'agents qu'on aurait peut-être à combattre si l'on ne parvenait pas à les acheter. Ce que Picard voyait de plus clair dans cette entreprise audacieuse, c'est qu'on serait forcé de partir pour la Louisiane en même temps que le convoi, et que le principal était qu'on pût obtenir le passage à bord du navire qui emmènerait les déportés. En arrivant à la salpêtrière, Picard avait appris du gardien qui était venu lui ouvrir la grille que les captives condamnées à la déportation avaient été emmenées. En quelques mots, il se fit raconter la scène qui avait eu lieu dans la cour au moment de l'appel des détenus. Le nom d'Henriette Gérard fut prononcé. « Elle est partie aussi, sans doute !» s'informa Picard, dissimulant son émotion. Et sur l'affirmation du gardien que la dite prisonnière avait été emmenée comme ses compagnes, le valet du lieutenant de police ne jugea pas devoir se rendre auprès de la supérieure. « Je sais tout ce que je voulais savoir. » fit-il d'un air indifférent, et je m'en retourne annoncer à monseigneur que ses ordres ont été exécutés. Il s'était muni d'armes et de tout l'argent qu'il possédait, et c'est à prix d'or qu'il put se procurer les deux meilleurs chevaux d'un maître de poste, lequel lui tint la dragée haute, voyant le grand désir qu'il avait de terminer l'affaire au plus tôt. Enfin, l'on tomba d'accord. Picard fit bouchonner et sceller les deux bêtes devant lui, et sauta sur l'une d'elles, tenant l'autre en bride. Lorsqu'il se retrouva devant son maître, il put voir à quel point le chagrin et la colère avaient assombri le visage du chevalier. Roger, debout devant la porte, piétinait sur place avec une impatience et une surexcitation toujours croissantes. Saisissant la bride que lui présentait le domestique, il se mit immédiatement en selle, et les deux compagnons partirent au grand galop. Jusqu'à ce que l'on eût gagné le bord de la Seine, pas un mot ne fut échangé. L'un et l'autre étaient absorbés dans des réflexions douloureuses. Le chevalier était fermement résolu à délivrer Henriette coûte que coûte. Il lui tardait de se rencontrer avec les soldats escortant la charrette. Son cœur débordait de désespoir et de rage à la pensée qu'il allait retrouver Henriette au milieu des ignobles créatures qui font parade de leur infamie et de leur cynisme. Dans son exaltation, il activait l'allure de son cheval. Chaque minute ne devait-elle pas le rapprocher de la malheureuse enfant et diminuer le temps du supplice qu'elle subissait? Pour Picard, c'était le commencement d'une aventure dont il redoutait l'issue. Après avoir tout mis en œuvre pour organiser ce départ précipité, il commençait à douter du succès. Il en était même arrivé de réflexion en réflexion à se persuader que l'évasion du chevalier était connue et que les exemples et agents du lieutenant de police étaient déjà aux trousses des fugitifs. Aussi proposa-t-il à son maître d'abandonner les grandes voies et de prendre par les petites rues pour arriver à l'entrée du faubourg qu'il fallait suivre dans toute sa longueur pour atteindre la porte Saint-Honoré. Roger se rendit à cet avis. Ils se virent forcés à leur grand regret de modérer le trot des montures, car les passants s'irritaient et interpellaient les cavaliers. Vers le milieu du faubourg Saint-Honoré, on prit le galop poussant tout d'une traite jusqu'au premier village. Là, il fallut s'arrêter pour s'informer. À l'auberge où il se présenta, il fut répondu au chevalier qu'on n'avait pas vu passer le véhicule de la police, escorté par les archers de la prévôté. Picard eut un soubresaut, mais un mot de l'aubergiste le rassura. « Après tout, dit celui-ci, ils sont peut-être sortis de nuit, comme la dernière fois, et dans ce cas, ils doivent être déjà loin. » Puis il ajouta, « S'il en est ainsi, vous pouvez filer tout droit sur Mantes, par la grande route, car c'est là qu'ils doivent faire reposer leurs chevaux. » Les cavaliers continuèrent leur chemin. Picard était visiblement soucieux, mais son inquiétude augmenta lorsque Roger lui demanda s'il s'était au moins informé de l'heure à laquelle les détenus avaient quitté la salpêtrière. Il mentit le brave domestique pris en défaut en affirmant que la voiture s'était mise en route le soir pour éviter les scandales qui se produisaient d'ordinaire sur son passage dans les rues. Ainsi débutait ce voyage pendant lequel le maître et le valet devaient passer par de nombreuses émotions avant d'arriver au but. À Mantes, ils ne purent être renseignés. Pas davantage à Évreux où ils durent s'arrêter pour louer des chevaux frais, les premiers étant littéralement fourbus et hors de service. Nulle part on avait eu connaissance du passage de la charrette. Picard ne savait plus que penser et intérieurement il s'accusait d'avoir agi avec une inconcevable légèreté, négligeant dans sa précipitation de prendre les renseignements nécessaires. C'était la première fois qu'il avait l'occasion de s'occuper du transport de détenus en Amérique. Il avait bien entendu parler des émigrations pour le Mississippi et la Louisiane, où l'on essayait d'envoyer le plus de travailleurs possible. Mais c'était tout ce qu'il savait. Il avait entendu citer le Havre de Grâce comme port d'embarquement pour cette destination lointaine. Mais il se pouvait, pensait-il à présent, qu'il en existât d'autres, aussi bien sur la Manche que sur le littoral de l'océan. De là une perplexité s'augmentant encore de l'exaspération du chevalier qui, à chaque nouvelle déception, s'emportait en imprécation contre le sort. Le rôle du vieux serviteur devenait plus difficile après chaque étape parcourue. C'est sous le coup de ces impressions qu'il chevauchait mélancoliquement. Les étapes se succédaient et toujours aucune nouvelle du convoi. Rien, ni à Rouen, ni à Motteville. C'était à se désespérer. Et Picard ne s'en fit pas faute pendant cet interminable voyage, durant lequel, pour rattraper le temps qu'on croyait avoir perdu, on avait crevé une paire de chevaux après s'être littéralement éreinté en pure perte. Enfin, on arriva dans les environs du Havre. Le chevalier alla immédiatement aux informations auprès de l'officier du port. Il apprit qu'il y avait effectivement un navire en partance pour le golfe du Mexique, lequel bâtiment devait toucher à la Floride et de là faire voile pour la Louisiane. « Et quand doit lever l'ancre ce navire ?» demanda Picard, intervenant dans la conversation. « Le capitaine n'attend pour appareiller que l'arrivée d'un convoi de détenus à destination d'Amérique, peut-être » interrompit vivement le valet. « Précisément, » fit l'officier en souriant. « Il y a déjà assez longtemps que nous n'avions eu ce genre de spectacle qui attire toujours beaucoup de monde sur le port. Et notre population n'épargne pas, je vous l'assure, les plaisanteries et les quolibets aux malheureuses qu'on exile. Du reste, si vous êtes encore ici dans 48 heures au plus, vous pourrez assister à cet embarquement qui ne manque pas d'intérêt. » Roger remercia et prit congé de l'obligeant officier. « Malheureux, » fit-il à Picard, « c'est toi qui m'as induit en erreur. À l'heure qu'il est, Henriette est peut-être encore à Paris, où nous aurions pu tenter de la délivrer. Et sans doute, en ce moment, elle subit les affronts de la populace. » Picard courbait la tête, tandis que le chevalier continuait en s'animant. « Pourquoi m'as-tu ainsi pressé de partir? Que ne t'es-tu mieux informé? Qui t'a donc si mal renseigné? Je ne peux douter de toi, de ta fidélité. Je ne puis te soupçonner, toi qui m'as donné tant de preuves de dévouement, que d'avoir manqué de prudence en me conseillant de me mettre en route, au hasard. Et cependant, ce sera ta faute si Henriette succombe à la honte qui l'attend dans les rues de Paris, si elle est exposée aux brutalités, aux insolences de ces archers, habitués à conduire des criminels et des prostituées. Ce sera ta faute si cet ange est souillé par de honteux contacts, si sa vertu subit d'effroyables épreuves. » L'infortuné serviteur sentait toute la responsabilité qu'il avait assumée. Les paroles irritées de son maître le mettaient au supplice. Tout ce qu'il entendait le poignait cruellement, et il ne trouvait pas une excuse plausible à faire valoir en sa faveur. Au surplus, il n'avait pas à tenter d'apaiser la colère du chevalier de Vaudrey. Picard comprit qu'il serait malvenu de donner des conseils après l'école qu'il avait faite. Il se résigna au silence, et le profond chagrin empreint sur son visage finit par exciter la compassion de Roger. Le pauvre homme n'avait pas voulu prendre une seule heure de repos après les fatigues d'un voyage si pénible pour le piètre cavalier qu'il était. Et lorsqu'il eut obtenu que le chevalier consentît à se rendre dans une hôtellerie afin d'y attendre l'arrivée du convoi, il se rendit, en dehors de la ville, sur la route de Paris, à l'effet de s'entendre, si faire se pouvait, avec le sergent de la prévôté qui commandait les hommes chargés de la garde des exilés. Il savait qu'avec de l'or, on parvenait souvent à corrompre ces archers peu scrupuleux, et il voulait tenter la chose, trop heureux s'il parvenait ainsi à racheter la faute commise. Pendant des heures, il marcha, espérant à chaque instant voir déboucher la charrette au détour de la route. Il se dirigeait vers des élévations du sol d'où il pouvait embrasser une plus longue étendue de route. Puis, lorsqu'un nuage de poussière s'élevait au loin, anxieux, il se mettait à courir, croyant que c'était enfin le convoi qui avançait. Loin de se laisser abattre, après chaque nouvelle déception, il s'acharnait au contraire, se surmenant en dépit de la sueur qui l'inondait et de la fatigue qui s'attaquait à ses jambes, peu faite à de semblables excès de marche. Et lorsque le soir venu, il dut se résigner à retourner auprès de son maître, rompu, brisé, haletant, il ne voulut pas consentir à se coucher. « Puisque je n'ai été qu'un maladroit, dit-il au chevalier, et que je n'ai pas eu assez d'intelligence pour le service de mon maître, je dois au moins déployer le plus d'activité possible. « Que veux-tu faire encore, mon pauvre ami ? » demanda le gentilhomme, touché à la fin de ce dévouement qu'il se reprochait d'avoir pu mettre un instant en doute. « J'ai mon idée, monsieur le chevalier. Que peux-tu ? La fatalité s'est attachée à nous et paralyse ta bonne volonté. » Monsieur de Vaudrey avait prononcé ces mots d'un ton plein de mélancolie. Après les accès de désespoir et d'emportement, il se rendait compte de la situation dans laquelle il avait lui-même plongé, engagé la pauvre jeune fille en se déclarant son protecteur. Il reconnaissait que le jour où il avait aimé Henriette, il avait accumulé sur sa tête des colères implacables et des vengeances qui ne faibliraient jamais. Aussi donna-t-il libre cours aux reproches qui s'adressaient à lui-même. « C'est moi qui suis cause du malheur qui frappe la pauvre enfant, » dit-il avec tristesse. « C'est mon amour qui lui est fatal. C'est par moi qu'elle souffre cette torture sans nom de se voir poursuivie, condamnée, flétrie. Picard se méfiait de cet attendrissement. Il connaissait le caractère résolu de son maître et il redoutait, après ce passager affaissement moral, le retour des surexcitations violentes. Il essaya donc de plaider les circonstances atténuantes en faveur de celui qui s'accusait lui-même. « Non, monsieur le chevalier, dit-il, vous n'êtes pas coupable pour avoir aimé, pour avoir dit votre amour, pour avoir vaincu les scrupules de celle que vous adorez. Vous avez été au contraire grand, noble et généreux. Vous avez su vous mettre au-dessus des convenances mesquines, des usages surannés et des traditions ridicules d'un autre âge, vous qui êtes prêt à vous expatrier, comme j'y suis prêt moi-même, pour aller sous d'autres cieux chercher la consécration de votre amour pour cette pure et belle jeune fille qui vous apporte en dot sa beauté, sa vertu et son innocence mille fois plus précieuses que de vieux parchemins. » Picard avait parlé avec une animation toujours croissante, et lorsqu'il interrogea le visage du jeune homme, cherchant à lire l'effet produit par son ardente plaidoirie, le chevalier, pour toute réponse, poussa un soupir en disant « J'attendrai d'avoir retrouvé Henriette, mon ami. C'est elle seule qui prononcera le verdict, qui doit décider du sort de ma vie. Nous attendrons, monsieur le chevalier. Mais ce que je veux m'imposer, je n'ai pas le droit de l'imposer à ton dévouement. Je n'ai pas le droit de te faire perdre le bénéfice de tant d'années de bon service, de t'entraîner avec moi dans les périls que j'affronte. Nous les affronterons, monsieur le chevalier. » Rassuré par ce que lui avait déclaré le chevalier de Vaudrey, Picard avait voulu retourner à la porte de la ville, placée sur la route de Paris. Et il était parti avec une précipitation et une ardeur de chasseur courant à l'affût. Mais maintenant qu'il faisait nuit noire, il estimait qu'il n'y avait pas d'utilité pour lui à courir au-devant de la charrette attendue. L'important était qu'elle ne pût passer sans qu'il la vît. Et pour cela, il se fit donner une chambre dans l'auberge où tous les conducteurs de voitures, charrettes, camions, avaient l'habitude de s'arrêter avant d'entrer en ville lorsqu'ils trouvaient, en arrivant, la porte de la ville fermée. Picard avait en outre obtenu, moyennant finance, qu'on lui donna la plus belle chambre au premier étage, ayant vue sur la route. De cette façon, il se prépara à passer, s'il le fallait, la nuit à la fenêtre. Une fois installé, il se prit à réfléchir à la façon dont il entamerait, avec les archers qui devaient escorter la charrette, la négociation qu'il avait en tête. Et vaincu par la fatigue, le coude appuyé et le front dans la main, le bonhomme avait des somnolences qu'il ne parvenait que difficilement à surmonter. Parfois, il se réveillait en sursaut et profitait de ce moment pour jeter un coup d'œil sur la route, aussi loin que pouvait porter son regard. Depuis longtemps, les fenêtres des maisonnettes espacées de chaque côté de la route royale ne laissaient plus filtrer de lumière, et de distance en distance, quelques réverbères épuisaient leurs dernières gouttes d'huile à projeter une faible clarté sur les pavés poudreux. De temps en temps, Picard tendait le cou, prêtait l'oreille à des roulements lointains. Puis, après avoir bien entendu et espéré, il voyait s'arrêter un chariot attardé dans sa marche, dont le roulier furieux venait frapper du manche de son fouet à la porte de l'auberge. Alors, il reprenait sa place et somnolait de nouveau. Bientôt, les réveils devinrent de plus en plus éloignés. La fatigue l'emportait définitivement, et la brise de nuit avait des caresses perfides pour ce pauvre corps surmené à outrance. De la somnolence combattue, Picard passa au sommeil invincible. Son bras glissa insensiblement et sa tête prit pour oreiller l'appui de la fenêtre. Et comme aucun bruit ne lui parvenait plus de la route, le valet du chevalier de Vaudrey s'endormit profondément. Au bout de quelques minutes, un ronflement sonore, régulier, rompit seul le silence.